talmudique. La fête de Soukhot, ou fête des cabanes, qui a commencé vendredi soir dernier, possède au moins trois significations. Ayant toujours lieu en automne, c'est tout d'abord la fête de la récolte. Elle marque la fin du cycle agricole annuel et le rite du loulav, le bouquet des quatre espèces composées de fruits et de branches, le souligne avec force. Ensuite, Soukhot commémore la vie fragile des Hébreux dans le désert après la sortie d'Égypte, dont la cabane, la souka, emporte la mémoire de génération en génération. Enfin, à partir de la période talmudique, Soukhot est aussi devenue la fête de l'amitié, du souci de l'étranger et du dialogue avec les nations. Occasion de réfléchir sur les identités humaines, non pour construire un séparatisme ou un communautarisme étriqué, mais au contraire, pour réfléchir aux conditions de possibilité d'une vie politique saine, où on se demande comment construire une vie commune malgré les différences, pour être mieux ensemble, enrichi grâce aux différences. Soukhot est une fête à l'heure des nations, pour user d'une expression phare de Lévinas. Les identités se construisent avec des textes, des idées, des gestes, des échanges et un ensemble d'éléments qui les manifestent, qui en sont la monstration sans nécessairement en être la démonstration. Mais parfois, au cours de l'histoire, ces identités sont brouillées, effacées, dissimulées, mises au secret. Par confort quelquefois, mais par survie d'autrefois. C'est le cas de l'identité marane qui, comme l'explique Gérard Naon, désignait au commencement de son usage des musulmans ou des juifs convertis, mais dont on jugeait que la conversion était feinte. Le phénomène marane, dont les effets se font sentir jusqu'à aujourd'hui dans toutes les transmissions, emprunta des voies cachées, discrètes, voire secrètes. Un phénomène qui construisit des identités hybrides, comme Derrida le suggéra en son temps, s'inscrivant dans des filiations tout aussi importantes et différentes qui inspirèrent Freud ou Spinoza. Cependant, en ce qui concerne le maranisme historique, celui qui s'enracine dans l'Espagne ou le Portugal du XVIe siècle, on aurait pu croire qu'il est une page définitivement écrite, que toutes les découvertes dans ce domaine ont été faites. Et pourtant, nous allons découvrir avec notre invité du jour que le maranisme est aujourd'hui encore bien vivant. Nathan Vachtel, bonjour.
Bonjour.
Nathan Vachtel, c'est un plaisir de vous retrouver dans Talmudique, où nous vous avions déjà reçu en 2015 pour trois émissions mémorables. Vous êtes titulaire émérite de la chaire Histoire et anthropologie des sociétés méso- et sud-américaines au Collège de France, auteur de nombreux ouvrages, dont La vision des vaincus, Les Indiens du Pérou devant la conquête espagnole 1530-1570. Et vous revenez aujourd'hui avec un livre intitulé « Sous le ciel de l'Éden », un passionnant ouvrage sous-titré « Juifs portugais, métis et indiens, une mémoire marane au Pérou ?» Une enquête ethnographique mêlant enquête de terrain et plongée dans les archives qui nous emmène au cœur du Pérou, dans la petite ville de Selendín. Comment êtes-vous arrivé à Selendín, au nord-est du Pérou, situé dans une plaine à 2500 mètres d'altitude? Et que découvrez-vous, Nathan Vachtel?
J'essaie de combiner la recherche dans les archives en travaillant sur la documentation historique et j'essaie également de retrouver des traces de ce passé dans le présent sur ce qu'on appelle le terrain. Mais je réponds à votre première remarque concernant les maranes. C'est un terme que j'emploie comme mes collègues l'emploient également, c'est-à-dire dans un sens, disons, neutre et non pas dans le sens péjoratif, en effet, qu'il a à l'origine. Et je l'emploie en raison de sa commodité. Et pourquoi est-il commode? Parce que pour désigner l'extension planétaire des nouveaux chrétiens, judaïsants ou non, mais qui étaient qualifiés de nouveaux chrétiens de génération en génération. Il y a déjà un stigmate dans cette hérédité de la caste, casta, il y a la caste des vieux chrétiens et ceux des nouveaux chrétiens. On aurait pu penser que le terme de nouveau chrétien s'applique à la première génération des convertis de force, mais en fait, ce qualificatif se perpétue à la deuxième, à la troisième, à la dixième génération. En plus, il y a, au milieu du XVe siècle, ces statuts de pureté de sang qui excluent les nouveaux chrétiens soupçonnés de judaïser, qui les excluent d'un certain nombre de charges, métiers, etc. Et il faut également donc rappeler comment ces nouveaux chrétiens ou juifs se sont diffusés à travers la planète. Alors, il y a d'abord le fait que, lors de l'expulsion des juifs d'Espagne, en 1492, ceux qui voulaient rester fidèles à leur foi sont partis, une grande partie dans le pays le plus proche, au Portugal, mais également dans le sud-ouest de la France, en Italie, en Afrique du Nord, dans l'Empire ottoman. Il y a déjà une première extension. C'est l'époque aussi, il faut rappeler beaucoup de choses très rapidement, c'est l'époque des grandes découvertes. Et rappeler que les empires coloniaux et espagnols et portugais font le tour du monde, donc deux fois le tour du monde. Au Portugal, d'ailleurs, les découvertes et conquêtes portugaises précèdent même les découvertes espagnoles en Afrique. Et ces voies nouvelles sont empruntées justement par ces nouveaux chrétiens qui, ainsi, commencent à constituer des réseaux commerciaux intercontinentaux, encore une fois, à échelle planétaire. C'est l'époque donc où, pour des raisons qu'il faut résumer très vite, la transformation du commerce international, on retrouve donc ces réseaux constitués par des nouveaux chrétiens à Madrid, Lisbonne, Séville, qu'ils soient judaïsants ou non. Et donc, par ces nouveaux chrétiens dans les pays dominés par un pouvoir chrétien, et on trouve également des juifs en Afrique du Nord, donc, ou des nouveaux juifs, je reprends ici l'appellation heureuse, étant donné le contexte de Josef Kaplan, les nouveaux juifs d'Amsterdam, de Venise, ceux qui, après avoir été nouveaux chrétiens judaïsants, reviennent au judaïsme, à Amsterdam, à Venise, etc. Nous sommes donc en présence de réseaux commerciaux, pas seulement commerciaux, qui ont également un fondement de liens de parenté. Il y a une même origine ethnique, ibérique, et qui relie donc des membres qui sont souvent parents et qui extérieurement ont une confession religieuse différente des chrétiens, donc, qu'ils soient judaïsants ou non, je répète, à Lisbonne, à Séville, et des juifs à Amsterdam, Venise, etc. Donc, comment appeler ces réseaux? Les appeler nouveaux chrétiens ne convient pas, les appeler juifs ne convient pas, c'est pourquoi le terme de maran est commode pour désigner tout cet ensemble, encore une fois, planétaire. Il y a même un terme qui réunit tous les membres de ce réseau, c'est le terme de nation. En portugais, la nação. Et la nação, ce sont les membres, quelle que soit leur confession officielle, ce sont les membres de ce groupe qui forme donc cette nation.
Alors vous parlez du continent ibérique, vous parlez des Espagnols et des Portugais. Il y a, je crois, une différence essentielle entre les maranes d'Espagne et les maranes du Portugal, Nathan Vachtel.
Exactement, car à partir du XVe siècle, j'ai signalé les statuts de pureté de sang qui s'établissent un peu partout, de ville en ville, en Espagne puis au Portugal, et qui donc sont ces statuts qui sont un stigmate. Mais surtout, à partir de la fin du XVe siècle, en 1480, est créée la nouvelle Inquisition qui est refondée au départ spécifiquement pour combattre l'hérésie judaïsante. Et en Espagne, en effet, dans les premières décennies du fonctionnement des tribunaux inquisitoriaux, la répression est très sévère et on peut estimer qu'au milieu du XVIe siècle, entre donc 1480 et 1550 environ, le maranisme, l'hérésie judaïsante est sinon totalement extirpée en Espagne, mais très atténuée, elle ne survit que dans des réduits. Et pendant ce temps, au Portugal, la conversion forcée, je n'entre pas dans les détails, commence en 1497, et ici, au contraire, le roi Manuel retient les juifs conversos, nouveaux chrétiens donc, en édictant une ordonnance qui garantit que pendant 20 ans, 25 ans, il n'y aura pas d'enquête sur justement les croyances, les rites que pourraient pratiquer ces nouveaux chrétiens. Il faut évidemment qu'ils restent discrets. Et donc, au Portugal, l'inquisition n'est introduite que, disons, à partir de 1540. Et donc, pendant une quarantaine d'années, les nouveaux chrétiens au Portugal peuvent, à condition encore une fois de pratiquer les rites juifs clandestinement, ils s'habituent à mener une vie double, extérieurement chrétienne et dans le privé, dans le secret, ils pratiquent comme ils peuvent. On ne peut pas pratiquer tous les rites juifs parce qu'il faut justement le secret, mais donc cette religion crypto-juive, dit-on, j'y mets des guillemets, se consolide et cette habitude d'avoir une vie double se consolide au Portugal. Et à l'intérieur de ce maranisme portugais, on peut signaler un maranisme encore plus consolidé, car nous allons venir justement au Brésil, et au Brésil, qui dépend du tribunal inquisitorial de Lisbonne, la répression inquisitoriale existe certes au XVIe et XVIIe siècle, mais elle ne commence vraiment, de manière intense, sévère, qu'à partir de la fin du XVIIe siècle. Si bien que pendant 150 ans, au Brésil, les nouveaux chrétiens peuvent judaïser de manière plus favorable encore pour eux et se consolide un maranisme brésilien encore plus résistant. Et c'est de celui-ci que nous allons continuer à parler à propos des pays d'Amérique latine.
Oui, parce que la question qui se pose, après ces précisions très importantes qui nous font à la fois voyager dans l'espace et dans le temps, comment du Brésil, où on comprend qu'il y a cette inquisition qui va commencer à exister, comment arrive-t-on au Pérou ? Le Pérou n'est pas le Brésil. Nathan Vachtel.
Alors, je réponds à la question que vous m'aviez posée précédemment. Comment suis-je arrivé à Selendine, qui est cette petite ville d'environ 20 000 habitants dans la région de Caramarca ? La grande ville de 200 000 habitants, c'est Caramarca. J'y suis arrivé parce que la population de cette petite ville a une réputation qui attire l'attention, c'est la réputation d'être d'origine juive, et plus précisément d'origine juive portugaise. Et comme indice justement qui vérifie cette origine juive, il y a deux caractères. Un caractère physique, c'est une population blanche, de type européen, c'est la population réputée la plus blanche de tout le Pérou. Et en plus, ils ont les yeux bleus, et même encore mieux, bleu-vert, sarco, bleu-vert. Et deuxième indice, un indice alors de type moral, c'est leur vocation professionnelle. Alors, ils ont vocation pour le commerce, bien sûr, les affaires, et une deuxième type de vocation, les études. Alors, ce sont des professeurs, des artistes, des architectes, etc. Et la combinaison, justement, de ces deux facteurs, je veux dire, les études et le commerce, cela fait que les gens de Selendine sont amenés à voyager tout le temps. Ils sont constamment sur les routes, dans les airs, et il mène une vie vagabonde, comme celle du juif errant. Le juif errant qui est l'un des thèmes du folklore de Céline Dion. Car il y a un folklore de Céline Dion qui joue justement sur cette origine juive des habitants de Céline Dion.
Oh, cosas azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. En una copa de vino quisiera tomarme de azules, no llores, no llores ni te enamores.
Les yeux bleus est une chanson populaire du Pérou dont on peut trouver de nombreuses versions. Ici, nous voulons de l'entendre avec Edier Navarro et El Indio, une version colombienne. Les yeux bleus ou vert émeraude jouent un rôle majeur dans l'imaginaire marane des habitants de Céline Dion et du Pérou en général. Comment, Nathan Vachtel, interprétez-vous ce phénomène ?
Dans le cas de Céline Dion, il faut situer donc ce thème dans son contexte. Et le contexte, c'est donc la coexistence de populations blanches, de populations indiennes, de populations métisses. Et il y a de fait une hiérarchie suivant la couleur de la peau ou la couleur des yeux. Et il vaut mieux donc être de teint blanc et avoir des yeux bleus, c'est beaucoup plus noble du point de vue du prestige social.
Et comment ces juifs sont-ils arrivés à Céline Dion ? Parce qu'on les voit, vous dites ils y sont, mais comment ils sont arrivés alors que nous étions avant dans le Brésil ?
Là, ça fait donc partie de l'enquête, mais nous savons que les nouveaux chrétiens se sont répandus donc partout dans le monde. Et ils sont arrivés donc au Pérou dès le XVIe siècle. Dans les archives de l'Inquisition de Lima, il y a des procès de judaïsants dès fin du XVIe siècle. Donc. Et le procès qui culmine a lieu en 1639. On sait qu'il y a donc des nouveaux chrétiens judaïsants qui sont arrivés par les ports, c'est-à-dire Callao, le port de Lima, ou Piura, le port du nord du Pérou. Mais il y a également la voie qui vient par Buenos Aires, qui est la voie justement peut-être privilégiée, parce que c'est la voie de la contrebande, c'est-à-dire celle qui suit l'exportation clandestine de contrebande de l'argent de Potosi, mais par cette voie entrent aussi des nouveaux chrétiens, et il y a des textes justement de plainte de cette, non pas invasion, mais de ces entrées trop nombreuses de population suspecte. Mais dans le cas de Céline Dion, il y a une tradition orale, qui n'est pas seulement orale, mais que répètent les contes, et même une donnée du dictionnaire géographique historique de Caramarca, qui précise que un groupe de migrants venus du Brésil, nous retrouvons le Brésil, avait suivi la voie de l'Amazone, du Maranhão. Le Maranhão est donc un des formateurs de l'Amazone, et arrivé jusqu'au moment où le Maranhão n'est plus navigable, ils avaient donc mis pied à terre et avaient gravi la montagne, et en arrivant au sommet du col, ils découvrent la vallée de Selendín, et déjà pour eux, alors les contes et les romans historiques le répètent, c'est la terre promise, c'est la terre promise. Et nous rejoignons ici aussi l'étymologie certainement fausse de Selendín, selon laquelle, et c'est le titre du livre, c'est pourquoi j'ai voulu donner ce titre au livre, le ciel de l'Éden, car le bleu, l'azur de Selendín, c'est vrai qu'il est profond, admirable et célèbre également.
Alors justement, c'est très intéressant cette couleur bleue de l'azur du ciel de Selendín, parce que le bleu, dans la tradition du judaïsme, c'est la couleur de la mémoire. Couleur du fil bleu azur, très laite, dans les franges rituelles du châle de prière, le talit. D'ailleurs, j'ai remarqué que au Pérou, mais c'est simplement une remarque très personnelle, la manière de tisser les bracelets péruviens ressemble beaucoup à la manière de tisser les tzitzit, les franges rituelles du talit. Alors, ces couleurs des franges appelées tzitzit, que le Midrash cité par Rashi commente ainsi, le bleu du fil des franges renvoie au bleu de l'océan, qui renvoie à l'azur du ciel, qui renvoie à la couleur du trône divin, décrit par le prophète Ézéchiel, trône qui est fait de pierre de saphir, qui d'ailleurs se dit aussi en hébreu saphir. Anagramme, le mot saphir, soit dit en passant, du verbe yesaper, c'est-à-dire il racontera. Je me suis demandé si cette fascination pour les yeux bleus n'était pas une transposition symbolique, spécifiquement marane, de cette mitzvah du talit, comme si les hommes et les femmes aux yeux bleus étaient des talits vivants, des mémoriaux vivants, de la couleur de la mémoire elle-même. Nathan Vachtel, et je me suis demandé si cela n'avait pas un rapport avec l'histoire que vous rapportez sur cette jeune fille qui s'appelle Zélène ou Tselène et qui avait les yeux bleus. Donc on peut peut-être d'ailleurs lire un passage dans votre livre où vous racontez, c'est à la fin parce que votre livre est construit après l'enquête sur le terrain, il y a un ensemble de récits et vous racontez l'histoire suivante. Là jaillit une source cristalline et abondante, qui favorisa ses activités, Zélène, la plus jeune, à mesure qu'elle grandissait, devenait une jeune fille de beauté resplendissante, dont les yeux immenses, de couleur bleu ciel, céleste comme le ciel azur de l'Éden, faisaient de son regard un rayon lumineux, pénétrant et irrésistible. Elle se promenait dans les prés, en s'amusant avec les oiseaux, les fleurs et les papillons multicolores, et elle cueillait des fruits en fredonnant ses chants magique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ce lien entre le talit et la couleur des yeux de cette jolie Zélène?
Ce mythe d'origine dont vous venez de lire un extrait, ce thème du bleu de l'Éden est interprété en termes de mythologie indigène. C'est-à-dire que cette Zélène, cette jeune fille de beauté admirable aux yeux bleus, elle est victime d'une querelle pour des raisons amoureuses, entre deux dieux, le dieu Ilapa et Kontiki, et elle est victime de ce méchant dieu qui était jaloux. Elle meurt donc, le dieu qu'il aime, par l'intermédiaire de son père Viracocha, la ressuscite, et Zélène monte au ciel, et depuis le ciel, de ses yeux bleus diaphanes, elle regarde cette vallée, dont le ciel bleu est expliqué par ce mythe. Mais c'est là qu'il est en effet tout à fait intéressant, remarquable, de relever cette coïncidence entre l'interprétation par l'intermédiaire de la mythologie indigène et cette interprétation qui retrouve le thème biblique que vous venez de citer. Alors, je ne crois pas que cette coïncidence est consciente chez les gens de Selendine, mais on ne peut pas ne pas remarquer à quel point la dimension poétique, justement, de ce folklore a une dimension non seulement qui englobe la mythologie, les croyances indigènes, mais a également une dimension à la fois poétique et biblique.
Alors, ça nous renvoie immédiatement à cette question de la mémoire, à la question des rites crypto-juifs ou maranes qu'on retrouve à travers le monde. Mais est-ce que vous avez découvert des spécifiques concernant les maranes de Selendine?
Quand je suis arrivé à Selendine, bien évidemment, je ne suis pas aller interroger dans la rue telle personne, êtes-vous d'origine juive? Bon, j'ai commencé par rencontrer les informateurs que nous appelons, avec des guillemets, les érudits locaux, et qui ont donc écrit sur l'histoire de Selendine. Bien. Et eux racontent que, et ça fait partie de la tradition orale, et on le vérifie dans les documents historiques, au milieu du XVIIIe siècle, donc à une période relativement tardive par rapport à l'extension des nouveaux chrétiens, des maranes, etc., est arrivé un groupe de migrants qui a suivi effectivement la voie, c'est dans la tradition orale, qui a suivi la voie du Maragnon, qui est arrivé à Selendine, etc. Et j'ai donc... Alors, ça n'était pas un hasard, car le premier érudit local qui j'ai demandé de bien vouloir m'accorder un entretien est un descendant de ce lieutenant-colonel Raimundo Pereira, qui, avec un groupe de migrants, était arrivé à Selendine dans les années 1760 et qui, au moment de la création officielle de la ville au début du 19e siècle, est devenu le premier maire, alcalde de la ville. Et donc, dans les croyances qui sont racontées ensuite, il y a un des thèmes qui apparaît de manière heureuse, car les traces de mémoire marane, ce que j'appelle mémoire marane, c'est-à-dire les coutumes familiales, transmises de génération en génération, la bougie du vendredi soir, etc., etc., ces traces sont très effacées, sont très fragmentaires. Mais l'une de ces traces apparaît merveilleusement, je me permets de dire, dans le cours d'un entretien que l'on peut lire maintenant, et sans que j'aie besoin de poser la question, apparaît donc un geste.
Avez-vous entendu parler du coutume familière parmi les anciennes familles des Selendine? La réponse, oui, par exemple les samedis. Dans certaines familles, comme la mienne, on faisait le nettoyage complet de la maison, des lits, des linges, des groupes de femmes allaient laver les linges au Rio Grande. On lavait tous les samedis, c'est une coutume juive. Question. Y avait-il aussi quelque chose le vendredi? Oui, bien sûr. Il y avait les candélabres, comme une menorah, une famille avec candélabres, et mon grand-père allumait le vendredi et le lundi. Pourquoi le lundi? Par exemple, pour un saint. Les samedis, on nettoyait la maison, et les dimanches, on allait à l'église. Mon grand-père était un homme très catholique, il participait régulièrement aux processions, il était actif dans les organisations catholiques. Mon grand-père, par exemple, quand il sortait de la maison, il touchait le côté droit de la porte, puis il signait. C'est un geste que j'ai toujours remarqué chez lui.
Commentaire, Nathan Vachtel.
Oui, alors, ce qui est merveilleux dans la déclaration de cet informateur, c'est que, sans que j'aie eu besoin de poser la question, j'ai posé la question à propos de la coutume du vendredi. Il répond donc, le candélabre. Bon. Et pour montrer à quel point son grand-père était quand même catholique, et pratiquant catholique, il raconte donc que le geste familier, c'est que quand il sortait de la maison, il touchait le chambranle droit de la porte et il se signait, il faisait le signe de croix. Sans que j'aie posé la question, pour montrer que son grand-père était vraiment un fervent catholique. On ne peut pas ne pas interpréter le geste comme un syncrétisme vraiment remarquable entre le geste de toucher la mezouza, d'embrasser le bout des doigts, mais là, non, il faut christianiser le geste, le baptiser, si je peux me permettre de dire, et donc on fait le signe de croix. Et on retrouve ce phénomène non seulement chez d'autres informateurs de Selendine, mais aussi dans d'autres régions très éloignées, puisque dans les États-Unis actuels, dans le Nouveau-Mexique, on retrouve également, ce sont d'autres études, on retrouve des analogies.
Merci Nathan Vachtel pour ce voyage au Pérou qui ne fait que commencer puisque nous avons la chance de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite de ce voyage sous le ciel de l'Éden qui est le titre de votre livre passionnant paru aux éditions Chandaigne dans la très belle collection Péninsule. Et j'aimerais aussi citer dans la même collection un des livres fondateurs des études maranes, La découverte des maranes de Samuel Schwartz, dont vous aviez fait la préface et accompagné d'une longue introduction de Livia Parnes. Merci encore Nathan Vachtel.
Merci à vous.
C'était Talmudique, une émission de Françoise Anne Ménager et Marc-Alain Wacknin. À la prise de son aujourd'hui, Antoine Viossa. À la réalisation, Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique. Toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de Soukhot, qui cette année, avec le masque, auront sans doute ou peut-être une petite saveur marane, Kol Touv, Le Yitraot. Au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.